pour leur ministère de musique. Et puis, c'est ici. Allons donc dans 1 Pierre. On va lire les deux premiers versets seulement dans les prochaines semaines, les mercredis. J'aimerais parler de certains sujets dans les épîtres générales. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à étudier les épîtres générales, puisque c'était ce que j'enseignais dans l'Institut biblique là-bas à Bingerville. Alors que je me préparais, le Seigneur m'a montré qu'il y avait peut-être certains enseignements à apporter également pour notre Église. Alors ce soir, on va simplement s'en tenir aux deux premiers versets du premier chapitre. J'aimerais parler de ce sujet « Élu pour la sainteté ». Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 et 2. Et ce soir, je ne me cacherai pas que c'est plus une étude biblique qu'un sermon nécessairement ou qu'une prédication. Mais je crois qu'on va découvrir des choses qui vont nous encourager au sujet de Dieu. Ça nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, Pierre, ici, l'écrit à ses lecteurs, qui sont dispersés dans la Turquie moderne. Ce sont des gens qui vont souffrir. Et dans 1 Pierre, on voit beaucoup le thème de la souffrance. Et vous savez, tout le monde souffre. C'est certain que si on va dans un village en Afrique, il y a certaines souffrances qui sont là, qui peut-être ne sont pas ici. Mais alors que tu parles à tes frères et sœurs qui habitent dans d'autres cultures, tu découvres que il y a certaines souffrances qu'on peut avoir ici sur le plan psychologique ou même spirituel qui peut-être diffèrent de là-bas. Il y a certaines oppositions à l'Évangile qui paraissent farfelues pour quelqu'un là-bas qui ne peut pas croire que des gens traiteraient la Bible de cette manière-là. Puis nous, ici, on est un peu habitués, ça fait partie de notre réalité. La souffrance, parfois, c'est financier, parfois, c'est la santé, mais ça peut être à divers niveaux, mais nous sommes tous appelés à souffrir pour Dieu. Parfois, on souffre parce que les gens se moquent de nous. Dans d'autres cultures, c'est carrément la violence contre les chrétiens. Dans d'autres endroits, c'est simplement le manque de certaines choses qu'ils devraient avoir. Mais la souffrance, c'est quelque chose que tous les enfants de Dieu vont connaître. Et dans l'épître de 1 Pierre, les souffrances vont être à l'avant-plan. Et Pierre leur écrit pour leur rappeler. Même si nous souffrons, on peut se réjouir premièrement du fait qu'on est sauvé. Et deuxièmement, on peut se réjouir du fait que le Seigneur vient bientôt. Donc, nous sommes sauvés, le Seigneur vient bientôt, mais Pierre leur écrit aussi afin que ses lecteurs gardent les yeux sur la gloire qui est à venir, mais aussi que ses lecteurs gardent la foi dans un monde difficile, un monde qui n'aime pas la vérité, un monde qui s'oppose à la vérité. Et vraiment, l'idée des souffrances va être... Dans Pierre, il va parler de la relation entre les épreuves puis les desseins de Dieu en matière de salut. Il va inciter beaucoup ses lecteurs à marcher dans la sainteté, à se soumettre aux autorités civiles, à se soumettre à leur maître, de discuter de l'attitude appropriée des croyants dans la souffrance et beaucoup de choses. Mais il commence son épître ici en parlant d'élection, en leur parlant de leur élection. Et puis souvent, ces versets-là, les versets 1 et 2, sont utilisés pour enseigner, qu'est-ce que je pourrais bien appeler ça? Un genre de discrimination divine. C'est comme si Dieu dit, « OK, je te choisis toi pour aller au ciel, mais pas toi. Je te choisis toi pour le ciel, mais pas toi. » Et c'est comme si Dieu décide souverainement qui ira au ciel et qui n'y va pas. Donc, l'envers de la médaille, c'est que si cela est vrai, Dieu choisit qui ira en enfer. Et cette personne-là n'a vraiment aucune chance d'être sauvée si cela est vrai. Et ces versets-là sont souvent utilisés pour enseigner, oui, que Dieu choisit certaines personnes pour le salut. Cette personne-là n'a pas vraiment le choix que d'être sauvée. Et enseigne l'inverse qui va de pair avec, que si Dieu ne t'a pas choisi, il n'y a rien que tu puisses vraiment faire. Et ça devient très, très, c'est déterministe. Mais j'aimerais qu'on remarque premièrement l'élection par Dieu. L'élection par Dieu. Remarquez ce que ça nous dit ici, au verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc, les versets ici nous parlent d'élection, mais comme je le mentionnais, certains vont avancer que nous sommes personnellement choisis par Dieu pour le salut, que Dieu m'aurait choisi afin que je sois sauvé, et qu'il aurait simplement choisi que certaines personnes ira en enfer. Maintenant, il y a deux façons de voir ça, cette doctrine-là. Certains vont dire, oui, Dieu a choisi personne A pour aller au ciel et personne B, il les a carrément créés pour aller en enfer. Ils vont prendre Romains chapitre 9 et d'autres endroits pour essayer d'enseigner ça. D'autres vont dire, non, Dieu n'a pas fait ça. Mais il a choisi ceux qui iraient au ciel et il n'a juste pas sauté par-dessus les autres. Mais ça revient au même. Ultimement, si Dieu ne t'a pas choisi pour le ciel, dans leur doctrine, tu n'as aucune chance d'y aller. Tu n'as aucune chance d'être sauvé, si cela est vrai. Et souvent, ils vont prendre ce verset ici pour essayer d'enseigner ça en disant que vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père. D'autres vont dire, ouais, on est élus, mais juste parce que Dieu savait à l'avance qu'on allait croire. Comme Dieu regarde à travers les corridors du temps, puis il dit, OK, je sais qu'Éric Léveillé va croire. Parce que je sais à l'avance qu'il va croire, je le choisis sur la base de ma préscience, du fait que je le connais d'avance. Maintenant, nous avons des frères en Christ bien-aimés qui affirment ces choses. Ils le croient sincèrement parce que c'est ce qu'ils croient que la parole de Dieu enseigne. Mais ce n'est pas ma position doctrinale à moi. Ce n'est pas non plus la position doctrinale de l'Église. Nous croyons que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, le verset 9. Et nous croyons également que quiconque veut peut venir et boire de l'eau de la vie gratuitement. Et nous croyons aussi que tous ont l'occasion de vouloir aussi. Dieu ne prédétermine personne à l'enfer. En fait, ceux qui enseignent que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées parce que Dieu ne les aurait pas choisies. Une autre doctrine qui va de pair avec ça, c'est que Jésus n'est pas mort pour ces personnes-là. Il n'est mort que pour les élus. Pourtant, ça nous dit dans 1 Jean 2:2 que Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est mort pour tous. Il est mort pour vous, il est mort pour moi, puis il est mort pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Canada ou entre les deux. Jésus est mort pour tous. Et aussi, Dieu a pourvu la capacité à tout être humain de croire en Jésus-Christ comme sauveur. En fait, la phrase ici dans 1 Pierre, dans l'original, et ce soir, je vous le dis d'avance, je vais faire quelques allusions au fait qu'on est souvent esclave de nos traductions. Quand on lit, je l'ai remarqué, j'étais à Lomé, je prêchais en français et je me fais traduire en évé. L'évé, c'est beaucoup plus long que le français en passant. Quand tu te fais traduire en évé, des fois tu perds ton... Ah oui, c'est vrai, je suis en train de prêcher. Le temps que le traducteur finisse, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'en étais où dans mon message? J'ai une nouvelle compassion maintenant pour quand moi je traduis nos prédicateurs invités. Des fois, je me dis, ouais, il faut qu'ils gardent leur concentration. Mais tout ça pour dire que quand tu passes d'une langue à une autre, soit il faut que tu ajoutes certaines choses pour te rendre clair, ou encore tu dois soustraire ou changer quelque chose pour clarifier le sens. Tu ne peux pas juste traduire mot à mot d'une langue à l'autre et que ça fasse du sens. Mais dans la traduction aussi, la prédisposition du traducteur face à certaines choses va influencer sa manière de le traduire. Encore, quand je prêchais en français puis j'étais traduit en évé, souvent le traducteur disait quelque chose, puis là, le pasteur derrière commençait à corriger le traducteur, puis il y avait 2-3 personnes, puis là, finalement, on arrivait à un genre de consensus de ce que j'avais dit. Là, je me disais, peut-être c'est mon accent qu'ils ne comprennent pas, je ne suis pas certain, mais des fois, il y avait une petite polémique, puis finalement, on avançait. Mais vous savez, on interprète ou nous traduisons selon nos croyances. Okay? Donc, nos croyances finissent par se retrouver dans la traduction. Et dans 1 Pierre 1, 1 et 2, avec tout le respect que je voue à tous nos traducteurs qui ont traduit la Bible en français, parfois, il y a certaines choses en français qu'on doit comprendre que ça, c'est juste le traducteur qui a dit ça, et on ne doit pas bâtir nos doctrines sur certains choix de mots que le traducteur a mis, parce que lui, il pense que ça traduit le mieux l'original, alors qu'on y voit vraiment les nuances de sa théologie à lui. En fait, dans ce cas ici, la Bible Osterval le traduit mieux un peu. Remarquez ce que ça dit dans la Bible Osterval, dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 et 2. Je ne pense pas que c'est en train de changer ici, mais ça nous dit, écoutez-le, ça dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers et dispersés dans le pont. » Avez-vous ce que c'est? Écoutez, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ça dit « aux élus ». Il ne dit pas « élus » dans le verset 2. En fait, dans Louis II, ici on est lu au verset 2, mais en réalité, il devrait être vers le début du verset 1. Maintenant, le traducteur, voulant mettre de l'avance la doctrine de l'élection, il l'a déplacé au verset 2 pour nous donner cette idée que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père. Mais en réalité, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers et dispersés dans le pont, par ou selon la préscience de Dieu le Père. Il n'y a pas d'élu juste avant le mot préscience dans l'original. C'est beaucoup plus tôt. Maintenant, pour que M. Second traduise, il a déplacé les mots. Puis en français, ça nous donne une image qui est... Bon, je ne sais pas qu'elle est erronée, mais disons qu'elle ne respecte peut-être pas nécessairement le poids des choses dans l'original. Ça peut paraître banal, mais il y a une grande différence entre un groupe de gens qui sont élus puis un individu qui est élu. Okay? Si je vous disais, l'Église baptiste centrale de Laval a été choisie par la ville de Laval pour avoir un char allégorique dans la parade de Noël de la ville. Je donne un exemple, ce n'est pas vrai, là, mais admettons que. Maintenant, est-ce que le maire de Laval, il vous connaît personnellement? Non, la raison pourquoi vous êtes invité à la parade, c'est parce que vous êtes dans l'Église de Laval et que l'Église a été choisie. Ce n'est pas une élection personnelle, c'est une élection collective. Et si vous faites partie de l'Église, vous êtes choisi. Mais ce n'est pas vous en tant qu'individu, c'est nous en tant que groupe. Okay? Je reçois constamment des courriels. L'Église baptiste centrale de Laval, vous avez été choisi comme étant un des organismes à but non lucratif les plus méritants de l'année au Canada. Ben oui, combien d'argent voulez-vous? Là? Ils veulent qu'on puisse mettre ça sur notre site web et tout, mais ça se paye, tout ça. Mais ce n'est pas Éric Léveillé qui a été choisi, supposément. C'est l'Église en tant que telle. Maintenant, je fais partie de l'Église, donc dans ce sens-là, je suis élu. Mais ce n'est pas que j'ai été personnellement choisi, c'est l'Église collectivement qui a été choisie. Puis ici, dans les versets, ça nous dit que Pierre écrit à un groupe de gens qui sont élus. Et ensuite, ça ne dit pas à les élus, mais ça dit simplement aux élus, c'est-à-dire la totalité des gens qui forment ce qu'on appelle les élus. Encore, je sais que ça peut paraître un peu comme des détails, mais vous allez voir dans un instant que ce ne l'est pas. Parce que Dieu n'a pas choisi personne A pour le ciel et personne B pour l'enfer. Non, il a choisi que tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ comme sauveur seront son peuple élu. Okay? L'élection, ce n'est pas, moi je crois personnellement à l'élection, ce qu'on appelle collective. C'est-à-dire que Dieu a choisi les chrétiens, les croyants, comme ses élus, mais ça ne veut pas dire qu'il a choisi un individu, lui, pour l'enfer, le ciel versus l'autre pour l'enfer. L'élection, elle est collective. Et aussi, l'élection dans la Bible, ça parle pas tellement de salut, mais ça parle de service. Comme aujourd'hui, lorsqu'on va élire, si on élit un premier ministre, il est élu pour servir le peuple, du moins en théorie. Et lorsqu'on choisit de croire l'Évangile, Dieu nous choisit pour son service. Et comme je le dis, parfois nous sommes un peu pris dans nos traductions, et je ne veux certainement pas vous faire douter de nos traductions. Nos traductions sont des dons de Dieu que nous avons pour étudier et comprendre sa parole. Mais encore, des fois, il faut pouvoir faire la distinction entre ce qui était vraiment dans l'original grec et quels mots ont été mis pour étoffer pour qu'elle fasse du sens en français. Par exemple, lorsque Serval, en particulier, dit « qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit ». Le mot « pour » n'est pas là nécessairement. Ça, c'est son choix à lui. Il le traduit en disant « Dieu les a élus pour qu'ils soient sanctifiés ». Tandis que ici, dans la seconde, ça dit remarquer « par ». Il y a une grande différence entre « par » et « pour ». Mais ça témoigne juste du fait que un traduit le verset puis dit « Ouais, on est élu par la sanctification de l'Esprit », ce que je suis d'accord. Et l'autre dit « Non, nous sommes élus pour être sanctifiés ». Il y a un monde de différence entre « par » et « pour », n'est-ce pas? Donc, encore, il faut qu'on puisse creuser un peu et voir pour avoir la saine doctrine, à mon avis. Maintenant, je rends grâce à Dieu ce soir qu'il a choisi que tous ceux qui viendront à Jésus pour le salut, collectivement, seront ses élus. Je rends grâce à Dieu aussi que Jésus est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Je rends grâce à Dieu que lorsque je rencontre quelqu'un, je n'ai pas à me poser la question. Est-ce que Jésus est vraiment mort pour lui? J'avais pris un cours de relation d'aide il y a quelques années, qui était enseigné par un homme qui a écrit beaucoup, c'est un écrivain prolifique sur la psychologie, si on veut l'appeler ainsi, chrétienne, plutôt sur la relation d'aide. Et puis, lui, il était de doctrine réformée, vraiment intense. Puis dans le cours, il dit quelque chose qui m'a abasourdi. Dans le cours, il avait dit, « Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne leur dites pas « Jésus est mort pour toi ». Parce que vous ne le savez pas, peut-être qu'il n'est pas mort pour cette personne-là. Parce que lui, il croit que Jésus n'est mort que pour ceux que Dieu a choisis d'avance qu'ils seraient sauvés. Nous, nous croyons que Jésus est mort pour le monde entier. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Et parce que Jésus est mort pour le monde entier, il donne l'occasion, il pourvoit l'occasion afin que tout le monde puisse être sauvé. Donc, quand on parle d'élection ici, nous ne sommes pas élus afin d'être sauvés ou sanctifiés, mais les élus sont ceux qui croient. Et ils sont collectivement le peuple élu de Dieu, comme Israël dans l'Ancien Testament. Israël était collectivement le peuple de Dieu. Mais Dieu n'allait pas parmi les Juifs en disant, « Toi, tu es choisi, toi, tu n'es pas choisi. » Non, c'était son peuple. Et nous, nous sommes son peuple aujourd'hui. Nous sommes son peuple, nous sommes sa nation sainte. Maintenant, remarquez deuxièmement la préscience de Dieu. Remarquez ce que ça nous dit ici au verset 2 encore. Qui sont élus, encore, j'ai déjà dit que le mot « élu » devrait aller tout de suite au début du verset 1. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers. » Il n'y a pas techniquement de « élu » au verset 2 dans l'original. Mais bon, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La préscience de Dieu. Remarquez qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu. Dieu peut tout savoir. Rien n'est caché devant lui. Rappelez-vous, là, 1 Pierre est écrit à des gens qui souffrent. Je ne sais pas pour vous si ça vous encourage ou si ça vous décourage que Dieu connaisse vos souffrances à l'avance. Moi, ça m'encourage. Parce que je sais que Dieu connaît la fin de toutes choses. Il sait même le moment où je vais aller le rejoindre dans la gloire, que ce soit par la mort ou à la dernière trompette. Mais ça m'encourage qu'il le sait, parce que s'il connaît le début de mon épreuve, il connaît aussi la fin de mon épreuve. S'il connaît ce qui cause ma difficulté, il sait aussi ce qui va m'en délivrer. Maintenant, je vais être franc, pour d'autres personnes, ça les frustre, parce qu'ils disaient, si Dieu le sait d'avance, pourquoi qu'il ne l'arrête pas? Mais Dieu choisit de nous faire passer par des moments difficiles pour nous garder près de lui, pour nous enseigner, pour nous transformer. Maintenant, encore, la traduction dit qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Puis encore, le mot « selon » ici, c'est l'interprétation. En réalité, le verset dit simplement « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers et dispersés, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la préscience de Dieu le Père. » La préscience dans le verset peut autant s'appliquer au verset 1 en entier, que Dieu savait où ils allaient habiter. Dieu, dans sa préscience, savait toutes ces choses-là. Mais c'est certain que sur la suite du verset 2, c'est plus l'élection ici qui est en vue selon sa préscience. Maintenant, Dieu connaît son plan d'avance. Et Dieu prédestine des gens à son service. Est-ce que ce sera possible de ce côté-ci de l'éternité de répondre à toutes les questions et toutes les nuances de questions sur le lien entre la souveraineté limitée, ça va être difficile de toujours répondre avec une précision absolue et une confiance absolue à toutes ces questions-là. Mais nous savons que Dieu est prescient. Ça devrait être pour nous un puissant encouragement alors que nous faisons face à des épreuves et des tribulations. Dieu le sait d'avance. Si Dieu le sait d'avance, il peut s'assurer que tu as le soutien nécessaire aussi. Si je sais que quelque chose va... Si je savais, par exemple, que demain, il y aura une panne de courant de 12 heures chez nous, supposons, je le savais à l'avance, je pourrais me préparer. Je m'assurerais que tous nos téléphones sont chargés, je m'assurerais que nos batteries de plus sont chargées, je m'assurerais que... Je prendrais des dispositions afin d'être prêt à l'épreuve que je connais d'avance, n'est-ce pas? De la même manière, si Dieu connaît mes épreuves d'avance, comme le dit le cantique, il connaît notre chemin d'avance. Si, je pense que c'est dans le petit livre, justement. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance. Pas seulement il sait comment t'amener de A à B, mais il sait quand tu auras besoin d'eau. Il sait quand tu auras besoin de nourriture. Il sait préparer les choses à l'avance parce que Dieu est prescient. Il est prescient encore sur le fait qu'il connaît ceux qui vont venir à lui et il les choisit pour son service. Remarquez ensuite ce que ça dit, la sanctification de l'esprit. Ils sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'esprit. Puis ici, je crois que le mot « par » est tout à fait légitime. C'est la bonne traduction « par ». On n'est pas élu avant la fondation du monde pour aller au ciel ou non élu avant la fondation du monde pour aller en enfer. Non. Dieu connaît d'avance, mais nous sommes élus maintenant. C'est quoi le moyen de l'élection? Par la sanctification de l'Esprit. C'est lorsque nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Et si l'élection de ces croyants souffrants est en harmonie avec la préscience de Dieu, elle est effectuée par la sanctification de l'Esprit. Un élu, c'est quelqu'un qui est sanctifié par l'Esprit. 10 fois dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot, sanctification. Et puis, il parle toujours de quelque chose qui vient après le salut, tout le temps. Et le mot sanctifié, ce n'est pas avant le salut. On n'est pas sanctifié, mis à part pour Dieu avant d'être sauvé. On est sanctifié après avoir été sauvé. Donc ici, il parle d'élection, puis il dit le moyen par lequel nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. Donc, l'élu fait partie du peuple choisi par Dieu collectivement pour accomplir son destin. Il est élu parce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur, puis il est élu par la sanctification de l'Esprit. Mais remarquez ensuite « afin qu'ils deviennent obéissants ». Ce n'est pas « nous sommes élus afin d'aller au ciel ». Non, nous sommes élus afin d'obéir à Dieu. Collectivement, nous sommes son peuple élu. Et tous ceux qui le veulent peuvent mettre leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur. Personne ne pourra un jour être devant Dieu au grand trône blanc et dire « je m'en vais en enfer parce que tu ne m'avais pas choisi ». Non. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, nous sommes élus afin d'être obéissants. La Bible nous dit de rendre notre élection certaine. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est en étant sanctifié puis en marchant selon l'Esprit. Parce que le but de l'élection, c'est qu'ils deviennent obéissants. Maintenant, certains vont dire, ouais, ben, l'obéissance dont ça parle, c'est le salut, c'est l'obéissance à l'Évangile. Mais non, dans l'ordre, ils deviennent obéissants comme résultat de la sanctification de l'Esprit. Plus tu es sanctifié suite à ton salut, plus tu es utile à Dieu. Plus ton élection devient une réalité dans le sens où tu accomplis maintenant le dessein de ton élection. Puis remarquez ensuite l'aspersion du sang de Christ et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Maintenant, l'aspersion du sang de Jésus, ce n'est pas une image du salut. C'est une image de sanctification, encore une fois. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait donné des instructions très claires. Je crois que c'est dans Lévitique. C'est répété dans Deutéronome, je crois. Moïse, il prend du sang, puis il fait l'aspersion sur les vêtements d'Aaron. Maintenant, Aaron est déjà le sacrificateur, là. Puis il fait l'aspersion. Ils font l'aspersion du sang sur les instruments du tabernacle et tout, parce qu'ils les mettent à part, mais qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. En fait, dans Hébreux, chapitre 9, les versets 19 à 22, ça nous dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, lorsque ça parle ici de cette aspersion du sang de Jésus, ça parle de mise à part pour Dieu. Ce n'est pas une image du moment où j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, mais plutôt maintenant en tant que chrétien, que je suis purifié et mis à part pour son service. Dans Hébreux 12, 24, ça nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui est déjà dans cette nouvelle alliance, qui parle mieux que celui d'Abel. Je vais essayer de tout mettre ça dans une boîte. Si vous êtes un enfant de Dieu ce soir, vous êtes élu. En fait, je me reprends. Nous sommes élus. Collectivement, nous sommes élus. Dieu a choisi que tous ceux qui sont en lui, Éphésiens chapitre 1, qui sont en Jésus, par la foi, sont les élus. Maintenant, l'élection, c'est collectif, et le sens primaire de l'élection, c'est qu'on est élu pour le servir, pour faire quelque chose pour lui, ou pour vivre une vie sainte, pour la vie chrétienne. Ce n'est pas une élection avant la fondation du monde que Dieu dit, « OK, mettez-vous tout en rang, ciel, ciel, enfer, 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 ciel, enfer, ciel, enfer, enfer, ciel, ciel. » Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tous viennent à lui. Puis il pourvoit l'occasion à tous. Mais, effectivement, nous sommes élus, il connaît d'avance selon sa préscience, mais l'objectif, ou le moyen plutôt, par lequel on est élu, c'est par la sanctification de l'esprit, parce qu'encore, l'élection, ce n'est pas premièrement sur le salut que ça concerne, mais c'est plutôt sur notre utilité à Dieu, sur, en tant que son peuple, ce que nous ferons pour lui. Selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'esprit, l'objectif étant qu'il devienne obéissant, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et la grâce vous multipliez. Donc, on conclut pour ce soir. Rendons gloire à Dieu qu'il donne l'occasion à tous de croire, qu'il donne l'occasion à tous d'être sauvés, que le sang de Jésus a été versé, non pas seulement pour mes péchés, mais pour les péchés du monde entier. Et dans les prochaines semaines, les dimanches, une chose qu'on veut faire, les dimanches à 11h30, c'est de se former, de s'aiguiser pour être de bons évangélistes ou de bons gagneurs d'âmes, de bien présenter l'Évangile aux gens. Maintenant, alors que nous allons présenter l'Évangile, nous savons qu'on ne peut pas témoigner à la mauvaise personne. On ne peut pas donner l'Évangile à un non-élu. Tu donnes l'Évangile à tous et tous ceux qui veulent peuvent être en Jésus-Christ et peuvent placer leur foi en lui. Mais réalisons qu'on est élu pour un but et qu'on doit vivre notre vie pour lui. C'est bien d'être sauvé. Mais vous savez, ce qui est mieux que d'être sauvé, c'est d'être sauvé et d'être obéissant à Jésus-Christ. Ça, c'est tellement mieux. Il y a beaucoup de gens qui vont être au ciel qui, aujourd'hui, le sont misérables. Parce qu'ils vivent leur vie comme s'ils n'étaient pas sauvés. Ou plutôt, ils sont sauvés, mais tout en étant sur la route qui, pour le ciel, ils veulent marcher sur un autre chemin. Et quand ton cœur est partagé, tu ne seras jamais bien. Tu ne seras jamais épanoui, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais en paix. Mais que le Seigneur nous aide à réaliser que nous sommes élus collectivement pour devenir obéissants et qu'on soit de plus en plus mis à part pour lui et utile pour son service. Père Céleste, merci pour les vérités de ta parole. Et je sais que beaucoup d'autres choses pourraient être dites et par ta grâce, lorsque tu diriges, seront dites. Mais merci pour ton amour envers nous. Et merci, Père Céleste, que tu as pourvu pour tous. Maintenant, aide-nous à marcher dans tes voies. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.